au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean Roulet.
Bonjour, page feuilletée, l'agenda littéraire de Canal Académie. Dans la collection Folio Essai, les éditions Gallimard ont publié en 2008 le second tome de Philosophie des sciences, dont le premier était paru en 2002. Les trois auteurs, Daniel Andler, Anne Fagot-Largeau et Bertrand de Saint-Sernin, font état du séminaire interuniversitaire qui s'était tenu de 1991 à 2001 sur le thème de l'histoire et de la philosophie des sciences. Ils expriment leur gratitude aux intervenants d'alors, dont l'effort de réflexion leur a été d'un apport précieux dans l'élaboration de cet ouvrage. Le premier volume était consacré au processus cognitif par lesquels l'homme appréhende sa double nature qui le rattache à l'ordre physico-chimique et à celui du vivant. Le second s'ouvre sur le chapitre 6 et s'interroge sur la nature d'un ordre humain. Peut-on vraiment parler d'un ordre humain lorsque l'humanité nous offre plutôt l'image d'un chaos? Et si dans ce chaos, on cherche à dégager une forme, quelle est-elle? Est-elle latente? Est-elle en devenir? Peut-on vraiment, dans les choses humaines, dégager des régularités comme la physique, mathématiques et la biologie ont su le faire pour la matière et pour le vivant? Qu'en est-il des sciences humaines? Les sciences humaines ont longtemps fait l'objet d'un désaccord entre naturalistes, qui les considèrent comme des sciences au même titre que les autres, et antinaturalistes, pour qui elles s'en distinguent foncièrement. Différence d'attitude qui oppose le monisme au dualisme, point de départ de cette réflexion. On se souvient que dans la classification des sciences d'Auguste Comte, qui va des mathématiques à la psychologie, chaque science repose sur la précédente. On passe de l'une à l'autre, tout comme on passe d'un chapitre au suivant, dans un livre qui nous impose un ordre de lecture. C'est la vision des physicalistes, pour qui tout l'univers n'est constitué que de matière, telle que la physique en achève actuellement d'en inventorier les constituants ultimes, d'où une cascade de réduction possible qui place les sciences humaines au terme des autres sciences sans leur accorder de statut particulier. Une vue moniste, donc. Autre attitude, celle des antiphysicalistes. Non, disent-ils, on ne peut pas réduire l'homme à la matière. En limiter les mécanismes mentaux à des processus physico-chimiques, on ne peut pas inscrire les sciences de l'homme dans la continuité d'une science unique et universelle. Pour eux, les sciences humaines ne viennent pas après, mais à côté des autres sciences. Le paquet proposé par les physicalistes leur apparaît un peu trop vite ficelé. Un point de vue dualiste, donc. L'homme occupe une position à part qui interdit de telles réductions. Voilà donc le grand débat ouvert. Les sciences humaines sont-elles, ou ne sont-elles pas, des sciences comme les autres? L'ouvrage nous entraîne alors dans différentes façons de confronter les sciences humaines aux autres sciences. Une confrontation dont sont issus des courants de pensée auxquels demeurent attachés des appellations en isme, mais au bout du compte, l'opposition demeure entre le monisme et le dualisme. On retrouve toujours des philosophes qui unifient et des philosophes qui distinguent. Une opposition qui prend tout son sens dès qu'on aborde les grandes questions comme celle du déterminisme et de la liberté, car elles interrogent toutes les consciences. À l'instant de se prononcer sur la valeur des attitudes en présence, les auteurs dénoncent toute position extrême ou exclusive. Ils rejettent aussi bien le mépris pur et simple des sciences humaines qu'une totale adhésion à l'un ou l'autre des dogmatismes naturalistes ou antinaturalistes. Rechercher des lois, si dissimulées soient-elles, a toujours été d'un apport positif pour la connaissance et la méthodologie. Les auteurs défendent l'idée que, je cite, « rapporter les choses élevées à un substrat humble ne les abaisse nullement ». En conclusion de quoi, ils recommandent un naturalisme heuristique conscient de ses limites. Si on peut ramener à un domaine déjà connu, tant mieux, on établit le lien. Mais cet effort de réduction doit demeurer conscient des différences et respecter celles qui lui résistent. Les chapitres à suivre constituent la troisième et dernière partie de l'ouvrage. Ils retiennent et analysent trois notions de base, mais qui en mobilisent d'autres. La causalité, l'émergence et la forme. Trois notions désignées comme concepts transversaux, donc utilisées dans les différentes approches scientifiques. Un peu, nous dit-on, comme les filets qu'on lancerait à la pêche aux connaissances. D'abord la causalité. L'idée d'un enchaînement des causes et des effets peut paraître claire. Mais, nous sommes prévenus, plus on y réfléchit, plus elle paraît obscure. Une réflexion qui va s'étendre sur plus d'une centaine de pages. On a l'impression, en les parcourant, que les philosophes se sont passé le concept de main en main, d'âge en âge, de théorie en théorie, que chacun au passage lui a légué sa formulation, et même que, bizarrement, certains auraient presque congédié la causalité du vocabulaire scientifique. Ils lui préfèrent par exemple la notion de loi. Après la causalité, l'émergence, autrement dit la nouveauté d'un phénomène, l'apparition du non encore observé. C'est là une notion de plus en plus courante dans le monde des sciences. L'émergence est liée à tout ce qui survient comme par surprise, comme une création, non pas à partir de rien, mais à partir de peu, nous disent les auteurs. Troisième concept retenu, une notion difficilement univoque, la forme. On parle aussi bien de la forme géométrique d'une statue que de la forme logique d'un argument. D'une portée plus concrète chez Euclide, la forme repère des structures plus abstraites pour les mathématiques modernes. Autre exemple, pointé par les auteurs, la physique des phénomènes complexes, où la forme repère des phénomènes macroscopiques, montrant l'organisation collective d'entités microscopiques. Or, il en est ainsi à chaque fois qu'on replace une discipline dans un cadre plus large, on perçoit un nouveau niveau de forme. L'initié appréciera d'avoir en main une somme, une réflexion d'envergure, dans un domaine plus que jamais confronté aux avancées de la science et donc en demande possible de révision ou d'extension. Face à la marée montante des connaissances et aux ruptures qu'elle impose à notre vision du monde, science et philosophie ont de plus en plus de raisons d'associer leurs réflexions. Pour le lecteur plus profane, le parcours sera souvent difficile, car il entrevoit que bien des termes ont une autre portée que dans le langage courant. Il en découvre d'autres qui sont encore moins des mots de tous les jours. Mais à suivre ou tenter de suivre les subtilités dialectiques, les recherches d'arguments décisifs en faveur d'un système de pensée ou d'un autre, on se prend vite au jeu de la spéculation philosophique. De page en page, de question en question, il nous apparaît que science et philosophie partagent un même moteur, la curiosité. Une curiosité qui se fraye un chemin dans la complexité du monde et qui ne s'accorde jamais de poser son sac. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouvel agenda littéraire sur Canal Académie.